intégrer une équipe, un groupe, un emploi qui vous annoncerait cash que vous ne serez pas payé et que de toute façon l'entreprise va fermer sous peu. Est-ce que vous seriez intéressé d'intégrer cette équipe? Oui?
Non.
Ce qui est intéressant, c'est que l'écriture non plus ne nous invite pas à intégrer quelque chose où on va perdre. Mais nous appelle, nous interpelle à gagner. Mais ce matin, on va lire le texte dans son entier, parce que si on met un point après gagner, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est gagner Christ. À cause de lui, j'ai accepté, dit Paul, de tout perdre, afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3, je vais suivre avec moi, verset 8. Philippiens chapitre 3, il est dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue. Un homme d'affaires que vous connaissez, j'ai pas pu enlever son nom sur l'image, en 1986, ouvrait son émission de télévision, et ça s'appelait « Gagner ». Son défi, c'était de faire gagner tous les jeunes à la confiance qu'ils pouvaient être des chefs d'entreprise. Et donc, c'était les moyens de gagner. Les sportifs, les nouveaux sportifs, ont un seul leitmotiv. Gagner. Les spéculateurs, ceux qui investissent, ont une seule attente. Gagner. Ce verbe, gagner, évoque toutefois, même si on le prend à contresens, un effort pour être couronné de succès. Mais il n'est pas réservé, et nous allons le voir ce matin, à une élite. Mais la Bible propose, encourage, tout homme, toute femme a gagné Christ. La première chose que on peut comprendre avec ce terme gagner, c'est que souvent gagner va à contresens de quelque chose. Marc chapitre 8, verset 36, l'évangile, si vous voulez tourner les pages de l'écriture avec moi. Marc 8, verset 36. Marc 8. Verset 36. Il est dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le plus grand gain qui peut exister, le monde, la plus grande perte qui peut exister, notre âme. Le plus grand gain, le monde, la plus grande perte, notre âme. C'est intéressant que l'évangile mette en opposition ces deux choses. Dans un sens, nous sommes dans ce monde et nous espérons régner, gagner, avoir de l'argent, avoir du, succès. Avoir du succès dans nos affaires. Mais, vaut-il la peine d'investir tant de force, tant d'énergie, ayant pour résultat la perte de notre âme? Pour Dieu, la réponse est claire. Et il a donné sa réponse. La valeur de l'âme est bien plus importante que toute valeur de ce monde. Elle est inestimable en comparaison à toutes les richesses de ce monde. C'est le Seigneur Jésus qui a prouvé en venant sur la terre. Il est venu chercher celui qui était perdu. Mes amis, la réflexion de ce matin veut nous amener à réfléchir sur trois points. Et nous regarderons ces trois points tout à l'heure. Mais j'aimerais nous poser la question en commençant, est-ce que nous sommes prêts à gagner? Sommes-nous prêts à faire les efforts nécessaires pour aller au-delà de ce que nous avons maintenant? Ne plus regarder ce monde comme quelque chose à atteindre, mais regarder Dieu. À la fin de son ministère, l'apôtre Paul se trouve en prison. Il est à Rome. De son monde actuel, comme son maître, il a reçu des coups, il a reçu des injures, il a reçu le mépris, il a reçu le dédain. Mais dans Galates 6,14, il dit que le monde est crucifié pour lui, comme lui l'est pour le monde. Comme un champion veut décrocher un titre, au prix d'une grande discipline, de privation, de tension, sa recherche, son but, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Gagner Christ, c'est gagner en excellence, gagner en compréhension. Pas connaître les histoires, mais connaître l'auteur. Paul court avec ténacité à toute épreuve pour découvrir la gloire de son Seigneur. Est-ce que nous courons ou est-ce que nous marchons tranquillement? Il y a le temps. On n'est pas pressé. J'aurai tout le temps quand je serai à la retraite. Certains disent. Malheureusement, ils meurent à la retraite. Et là, demain, je ferai. Mais je ne maîtrise pas demain. Nous affirmons ou nous prétendons suivre l'exemple de Paul. Mais est-ce que nous brûlons ? Par notre amour, par notre obéissance. Qu'est-ce que signifie gagner Christ? Alors je vous invite à lire Philippiens chapitre 3, on va lire les 14 versets pour comprendre le contexte. Philippiens 3, au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est vous qui rendons à Dieu, à notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'évangile, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute autre chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, de la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Trois choses s'imposent. La première chose dans l'épître, dans cette épître aux Galates, c'est qu'il y a une rupture avec le passé. La première des choses qu'on voit, c'est peut-être pas très clair, mais c'est que l'homme a chuté. L'homme a chuté. Notre passé, tout aussi important qu'il soit, tout aussi prestigieux qu'il soit, n'intéresse pas Dieu. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. La tradition, la race, l'appartenance à une tribu royale, le sang non mélangé, la pureté de la langue, le zèle pour les règles extérieures à la loi, l'adhésion passionnée à une secte stricte. Ces choses qui le motivaient tellement et qui faisaient même penser qu'il agissait bien. Paul comprend. Et heureusement que ces choses l'ont mené vers la mort. Que ces choses étaient des choses qui venaient de son être intérieur, de ce que le diable l'emmenait à faire. Tout est digne et rien n'est méprisable dans un catalogue d'avantages. Mais ces choses l'ont conduit à persécuter l'Église, à blasphémer le nom de Jésus-Christ, à traiter sans ménagement hommes et femmes. Une chose a bouleversé la vie de Paul. Sa rencontre sur le chemin de Damas avec son Sauveur. Mes amis, dans notre route, dans notre chemin, dans notre processus de vie, s'il n'y a pas un Damas sur notre route, s'il n'y a pas un moment où il y a une rencontre avec Jésus-Christ, et si cette rencontre n'est pas transformatrice, alors nous sommes sur la mauvaise route. Alors nous sommes sur le mauvais chemin. L'enfer, quelqu'un a dit que l'enfer était pavé de bonnes intentions. Et on a peut-être des bonnes intentions. Ou on n'a pas l'intention de faire du mal à quelqu'un, n'est-ce pas? On n'a pas l'intention d'être méchant. Mais ce n'est pas ce dont la Bible parle. Nos intentions, elles sont nos intentions. L'ensemble des normes qui sont dans notre vie se doivent de basculer pour faire place à Christ et à son royaume. Aujourd'hui encore, ces choses se produisent dans nos vies. Au début d'année, nous prenons la résolution, de nouvelles résolutions. Lire la Bible en un an. Il faut la prendre, cette résolution. Mais notre sœur a mis un filet de secours. Coachez-moi. Restez à côté de moi parce que ça sera pas simple. Oh, pas ce matin, je suis fatigué. Moi, je lirai demain. Ah oui, mais demain, je dois partir de bonne heure. Bon, je lirai après-demain. Et puis, on arrive en fin de semaine. Oula! Bon, ben là, oui. De toute façon, c'était le livre des nombres, c'est pas important. Ben, je vais lire celui d'après. Puis, l'Ancien Testament, c'est pas terrible. Moi, je vais lire nouveau. On a des intentions. Mais, les normes sont là. Aujourd'hui, ces choses doivent changer. Ces choses auraient pu installer l'apôtre Paul comme un grand docteur renommé pour sa science. Mais il a regardé toutes ces choses en disant, ces choses, c'est de la boue. Ce que je veux, c'est gagner Christ. En quoi plaçons-nous notre confiance ? Dans nos forces, notre formation, notre intelligence, nos objectifs. Jamais j'aurai un accident. Jamais ! Combien de fois j'ai entendu cette phrase dans la bouche d'amis, et peut-être dans ma bouche, pour m'apercevoir que valait mieux jamais ne dire jamais. Parce que nous avons l'intention. Le passé nous a conduit là où il ne fallait pas. En Christ, notre nouvelle position a changé, nos dons ont changé, nos goûts ont changé, notre regard a changé. S'il n'a pas changé, est-ce que nous avons rencontré Jésus-Christ ? Ou est-ce que nous suivons un chemin pour y aller ? Source de problèmes. Ces vieilles normes nous ramènent souvent. Elles nous empêchent de nous épanouir. Elle nous empêche d'avoir la joie. Est-ce que c'est simple d'avoir la joie lorsque nous avons péché? Lorsque nous sommes tombés? Être chrétien, c'est pas ne pas tomber. Ce n'est pas. Mais c'est avoir le privilège de ne pouvoir pas tomber. Et de se relever en Jésus-Christ. Regardez Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il vous remplisse de toute tristesse, de toute amertume, de toute rancœur, de toute tristesse. Non. De toute joie et de toute paix. C'est un changement, non? Dans notre monde, est-ce qu'on peut avoir la joie et la paix tous les jours? Oh, je peux pas être joyeux quand je regarde la télé. Bah, éteins la télé. Je peux pas être joyeux quand je regarde les gens. Ah, mais les gens, tu peux pas les enlever. Je peux être dans la joie de savoir que Dieu me donne sa paix. Qu'il m'a mis sur le bon chemin. Et je serai encore plus joyeux si je peux le partager avec les autres et les amener sur ce chemin. Qu'est-ce qui te donne cette... Mais c'est pas possible que tu sois en paix, si. Parce que Dieu me donne cette paix. Chute. Rupture avec son passé. La deuxième chose que Dieu, que Paul nous montre ici, c'est une ambition pour le... D'habitude, quand on dit ambition, on parle plutôt du futur. N'est-ce pas ? Mais là, Dieu nous appelle, ou Paul, par la bouche de Paul, à une ambition pour le présent. Il ne s'arrête pas à une série d'avantages, Paul. Il va plus loin. Il porte un regard critique, lucide, sur tous les privilèges que le monde lui offrait. Et il dit, et même, je regarde toute chose comme une perte. La connaissance de Jésus-Christ est une telle richesse que son échelle de valeur a été bouleversée. Il est convaincu que tout est appelé à disparaître, à fuir, à passer. Il dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, 31, que la figure de ce monde va passer. Si nous prenons le temps d'évaluer les choses qui nous attirent, les choses auxquelles on donne énormément de temps, ces choses qui souvent, mes amis, prennent la place de Dieu. N'est-ce pas? On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour les amis. On n'a pas le temps pour lire. Mais on a le temps de partir en vacances. Mais on a le temps de partir en week-end. Mais on a le temps de regarder un film à la télé. Mais on a le temps de se promener sur Internet. Non. C'est bizarre que nos valeurs, ce qui nous motive, ah, ça me fait tellement bien de rien faire. Si nous prenons le temps d'évaluer nos succès, nos profits, nos paralysies, et si on les compare avec la vraie communion avec notre Dieu, ça ne fait pas de nous quelqu'un, mes amis, qui ne se réjouit pas de ce monde. Ça ne fait pas de nous des gens qui n'ont aucune relation avec les autres, bien au contraire. Bien au contraire. Mais une relation renouvelée. Une relation changée, transformée. Pas avec des Jésus-Christ vous bénisse toutes les deux phrases. Mais dont mes relations avec ces gens sont bien différentes. Parce que je les regarde avec le regard de Jésus-Christ. Pas en juge. Pas en posant des sentences. Oh, lui, de toute façon, c'est foutu. Lui, jamais. Le langage de Paul est excessif, n'est-ce pas? Je regarde toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Les choses perdent leur éclat. Vous savez, quand on a quelque chose de précieux, quelque chose qui marque notre événement, notre vie, on le met de côté, on dira ça, toute ma vie je l'aurai avec moi. Ça je vais le garder précieusement. Et puis les années passent, le temps passe, et puis le souvenir s'estompe, n'est-ce pas? Et puis l'objet commence à être revêtu de sa pollution. Il devient moins brillant. Et puis, il perd de sa valeur. Notre présent est l'illustration de ce qui s'est passé dans ma vie, de mon chemin de Damas. Mon présent est la garantie. Les arts de l'esprit sont là pour me montrer que je peux avoir la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité. Parce que ça, c'est le fruit de l'esprit. Tandis que les autres choses sont les œuvres de la chair. Est-ce que nous sommes ambitieux avec notre présent? Rupture avec le passé, c'est une chose. Mais notre présent, y mettons-nous une barre un peu plus élevée que la norme? Où sommes-nous dans la moyenne? Bon, tout le monde le fait. Oh, mais les autres non plus. Un jour, une dame avait mal garé sa voiture comme les autres. Et un policier était à côté de sa voiture et avait mis un PV sur sa voiture. Alors la dame venir de crier « Mais monsieur, regardez, les autres l'ont fait !» J'ai dit « Oui, j'ai vu. » « Mais alors ? Mettez-leur des PV ?»« Mais pour l'instant, j'en mets un à vous, madame. » « Mais c'est pas juste !»« Madame, pour les autres, je vais m'arranger. Mais pour l'instant, c'est vous qui avez. » Et ce qui est intéressant, c'est que quand on veut pécher, on regarde les autres. N'est-ce pas? Oh, mais les autres chrétiens, tu sais, ils le font aussi. Oui? Et t'es pas responsable des autres chrétiens. Tu es responsable de toi. Eux, ils auront à répondre pour eux-mêmes. Et moi, quand je vais rencontrer le Seigneur, je vais pas pouvoir lui dire, ah bah, tu sais, Jules, il faisait pareil. Hein? Sommes-nous des chrétiens ambitieux? Des chrétiens qui ont envie de grandir, des chrétiens qui ont envie d'apprendre, des chrétiens qui ont envie d'échanger, d'être des acteurs dans leur vie. Pas des pions. Pas des gens qui attendent que les événements changent, qu'ils fassent soleil pour bien aller. Que j'ai la preuve d'un engagement pour être actif. C'est ce que Paul dit. Je regarde toute chose comme une perte pour gagner Christ. Sommes-nous des passionnés de Jésus-Christ? Apprendre à montrer dans cette vie une qualité de vie. On avait, dans le temps, hein, je fais souvent référence au temps, parce que malheureusement il a passé, enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Pour certains c'est heureusement, d'autres c'est malheureux. Il y avait la ministre de la qualité de la vie. Alors je ne sais pas si Charlène aurait été invitée auprès de la ministre de la qualité de la vie, pour s'asseoir à côté d'elle. Mais nous avons un ministre de la qualité de la vie. Il y a un ministère de la qualité de la vie à côté du trône de Dieu, et c'est Jésus-Christ qui est dessus. Il a changé notre qualité de vie. Il nous a donné la vraie vie. Il nous a accordé le pardon. Il nous a donné sa joie. Pas comme le monde donne. Ça nous rend pas heureux de savoir que le ministre de la qualité de la vie, le grand ministère de la qualité de la vie existe et que nous passons à côté. Alors s'il y a une rupture avec le passé, une ambition pour le présent, la troisième chose c'est qu'il y a un objectif pour l'avenir. Devant un futur sombre, inquiétant, nous trouvons un tonique exceptionnel. Je fais une chose, dit-il. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je m'assois dans mon canapé. Ouais, j'ai pas ça, non, c'est je cours. Je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière, me tournant vers ce qui est en avant, je cours. Pour courir, faut savoir où. On va imaginer les Jeux Olympiques, les 40 km, le marathon olympique. Je sais pas si ça existe ce marathon olympique, je suis peut-être. Imaginons que chacun parte dans le sens où il veut. Et court 40 km. Ah, j'ai fait un super temps. Oui, mais ce n'est pas la bonne direction. Et que la personne dise, mais moi j'ai regardé, hein, j'ai mis le bon temps, hein, je veux ma médaille. Oui, mais ce n'était pas le bon territoire. Certains vont venir et me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles avec toi? En ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai pas connu. Si c'est pavé de pleines intentions, si c'est fait par nos actes, notre volonté, nous sommes en train de nous tromper. Et notre objectif ne sera pas atteint. Et rater la cible, le mot grec c'est amarcia. C'est péché. Si nous ratons la cible, si nous ne sommes pas sur la bonne cible, sur le bon chemin, nous ne serons pas au ciel. Ambition pour l'avenir. Finir la course. Recevoir la coupe. La Bible dit qu'il n'y en a pas quelques-uns, il a dit, mais que chacun court pour gagner la coupe, pour atteindre la couronne. Les faillites, les succès, les chutes, les engouements passagers, les jugements favorables et les coups de griffe sont à abandonner. Lorsque nous sommes convertis, lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, alors il y a encore souvent ces choses dans notre vie. Nous avons besoin de nous en débarrasser, de laisser la place au Saint-Esprit de nous débarrasser de ces choses. Se débarrasser du poids mort, de ce qui nous encombre, de ce qui est sur nos épaules. Ah, ça je le porte. Me portant vers ce qui est en avant, pas ce qui est en arrière, ni autour, mais en avant, en haut, vers Christ, assis à la droite de Dieu, souverain sacrificateur, selon Hébreux 4, chef de l'Église, comme venant sur les nuées, Matthieu 26, pour chercher ceux qui lui appartiennent. Cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut, pas aux choses d'en bas. Je cours avec un rythme soutenu. Courir, c'est se déplacer à vitesse élevée, avec la faculté de réaliser que chaque heure apporte ses batailles, ses travaux, ses devoirs. Chaque journée fournit des occasions de vaincre la tentation, le péché. Le diable revient, mes amis. Il nous rappelle que pendant un temps, nous l'avons servi sans chercher à comprendre. Et ce qu'il veut, c'est nous ramener sur son chemin. Et si nous ne nous mettons pas objectivement sur la bonne route, on a l'habitude de chanter un chant quand on a gagné. Ouais. Mais pour ceux qui suivent le sport, il y a un chant qui vient systématiquement, c'est « We are the champions ». N'est-ce pas? 98, on l'a chanté une seule fois, je pense. Moi, j'ai regardé le chant. Ce qu'il dit. Il dit « J'ai payé mes dûs. Heure après heure, j'ai fait ma sentence. Je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas fait de mauvaises erreurs. J'en ai fait certes quelques-unes. J'ai eu ma part sur le sable, des coups de pied au visage, mais j'ai survécu. Et nous avons l'intention de continuer parce que nous sommes les champions encore et encore. Nous sommes les champions, mes amis, et nous continuerons de nous battre jusqu'à la fin. Nous sommes les champions. Nous sommes les champions, pas de temps pour les perdants, car nous sommes les champions du monde. J'ai fait mes révérences, je suis revenu au rideau, c'est pour le théâtre. Vous m'avez apporté la célébrité, la fortune, et tout ce qui va avec, et je vous remercie tous. Mais ce ne fut pas sans difficulté, pas une croisière, je considère tout ça comme un défi, toute la race humaine, et je ne vais pas perdre. Nous sommes les champions. C'est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ nous a donné la victoire par son sacrifice. Maintenant, il nous l'offre. Mais il nous demande de reconnaître que pour avoir une bonne qualité de vie, pour gagner Jésus-Christ, nous avons besoin de décider quelle qualité de vie nous allons donner à notre vie terrestre. Parce qu'elle préfigure notre vie céleste. Si sur le chemin de Damas, nous nous sommes arrêtés, nous avons considéré que nous avons chuté, alors nous devons réaliser que Jésus lui a dû souffrir de la couronne à la croix. Et c'était pas une couronne de fleurs, mais c'était une couronne d'épines. Que lui, il a été de la croix jusqu'au ciel. Gagner Christ, c'est gagner en qualité, mes amis. Mais si nous gagnons en qualité, le monde va en avoir les bénéfices. Ceux qui sont autour de nous vont voir non plus les hommes et les femmes, mais alors ils pourront voir Jésus-Christ. Ils pourront voir Dieu dans notre vie. Ma question pour ce matin, sommes-nous prêts à gagner Christ pour lui ressembler? Sommes-nous prêts à faire les efforts nécessaires pour combattre le bon combat, pour aller jusqu'au bout de la course, pour que la ville de Vigneux, pour que les villes dans lesquelles nous habitons, pour que nos collègues, nos amis, nos parents, nos emplois voient Jésus-Christ, et que eux, à leur tour, puissent avoir cet accès privilégié, cette grâce. Sommes-nous des gagneurs? Ou avons-nous intégré la vie en disant « Cette vie, elle ne va rien m'apporter. Je vais attendre que ça ferme. Ça va forcément s'arrêter un jour, comme le bruit. » Mes amis, il y a un défi. Et j'aimerais savoir si on est prêt à le relever. Dieu fait des miracles dans nos vies. On en entend dimanche après dimanche. Dieu change nos vies. On entend dimanche après dimanche. Maintenant, est-ce que nous, en tant que groupe, nous sommes prêts à faire un pas de plus, à gagner pour faire perdre l'ennemi? Parce qu'à la croix de Jésus, il a été vaincu. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin pour l'étude de ta parole. Et déjà, nous voulons te remercier parce que à la croix de Jésus, nous avons la victoire. À la croix de Jésus a été déposé ce précieux dépôt qui nous donne la clé pour aller jusqu'au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, ce matin, je voudrais te présenter tous ceux, toutes celles qui, peut-être dans cette salle, ne sont jamais allés chercher ce précieux dépôt. Tous ceux, toutes celles qui sont peut-être sur ce chemin tortueux, ce chemin difficile de la vie, des épreuves, des découragements, des rejets. Peut-être ces hommes et ces femmes qui se sont usés à vouloir aller mieux. Et à qui ce matin tu veux offrir la coupe du vainqueur. Non pas la coupe qu'ils ont acquise, mais la coupe que toi tu t'es acquise sur la croix. Seigneur, je veux te remettre chacun sur son chemin. Peut-être certains sont dans leur chemin de Damas, résolus qu'ils sont en train de faire le bien alors qu'ils sont utilisés par l'adversaire. Et ils ont besoin de te rencontrer, toi. Ils ont besoin que tu les arrêtes et que tu te révèles à eux. Et puis, je veux te remettre, Seigneur, ceux et celles qui peut-être aujourd'hui réalisent que leur vie terrestre est bien fade. Que leur vie terrestre n'est qu'une succession de difficultés. Et que même parfois ils s'interrogent à savoir si être chrétien c'est normal d'avoir toutes ces difficultés. Et qui peut-être doutent. Mais toi tu es notre ministre de la qualité de la vie. Celui qui peut transformer notre vie terrestre en nous donnant la paix, en nous donnant la joie. Alors si ce matin, premièrement, vous êtes de ceux qui ne sont jamais passés par la croix, de ceux qui n'ont jamais été chercher ce précieux dépôt, ces clés, pour avoir accès au Père. Je veux juste prier avec vous, pour vous aider à découvrir ces clés. Y a-t-il quelqu'un, quelqu'une, qui ce matin aimerait aller chercher ce précieux dépôt à la croix? Quelqu'un qui aimerait dire, moi j'aimerais rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'on a entendu qu'il avait changé l'apôtre Paul. Il avait changé au travers des siècles des hommes et des femmes. Et moi je veux accepter de rompre avec mon passé pour avoir un présent différent. Il y a un avenir certain. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait? Oui. Une personne ce matin. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait. Et puis peut-être vous êtes sur votre chemin de Damas. Peut-être votre vie journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, est devenue fade suite aux épreuves, aux difficultés qui se sont renouvelées. Une certaine amertume, oui. Que Dieu vous bénisse. Certaines amertumes s'est mise dans votre vie au point que vous doutez de la réalité de Jésus-Christ. Est-il quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui. Eh bien, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin. Tu vois, tes mains se sont levées. Elles étaient timides. Mais elles se levaient vers toi. Tu connais ceux qui se sont approchés de toi ce matin. Et ce matin, tu dis qu'il y a la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Quelqu'un qui admet, Seigneur, que sa vie, elle ne valait rien devant toi. Mais d'un autre côté, elle était tellement précieuse que tu as voulu la sauver. Et Père, je veux te remettre pour ceux qui ont levé la main parce qu'ils sont usés, fatigués, parce que les épreuves de la vie a mis en eux des doutes. Ils ont levé la main vers toi pour que tu les aides. Et je te les remets, je te les confie, parce que toi seul peux les relever. Merci Seigneur, parce que ta parole ne reste pas sans effet, parce qu'elle touche, parce qu'elle change, parce qu'elle transforme. Que ton Église, tu en es le chef, tu en es la tête, puisse continuer de grandir, pour que tu sois manifesté dans nos vies, honoré dans nos vies et reçu dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.